Salut et bienvenue dans Les Belles Découvertes, le podcast de l'UM Normandie qui vulgarise la recherche. Aujourd'hui, nous sommes avec Ludovic Jeanne, géographe et professeur assistant en géopolitique à l'UM Normandie, et nous allons parler de l'impact de la crise du Covid-19 sur nos sociétés. Bonjour Ludovic.
Bonjour Valentin.
La crise du Covid-19 a fragilisé nos sociétés et a mis en lumière nos faiblesses, notamment en termes de chaîne d'approvisionnement. On parle beaucoup des semi-conducteurs et de la pénurie des semi-conducteurs. Nous en subissons encore les conséquences d'ailleurs aujourd'hui. Que montrent tes recherches à ce sujet? Et plus précisément, pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la pandémie a révélé un petit peu la face sombre de la globalisation dans son régime actuel?
Alors, ce sont nos recherches, parce que c'est un vrai travail d'équipe avec mes collègues Sébastien Bourdin, Fabien Nadou de l'OM Normandie également, et Gabriel Noiret, qui à l'époque était ingénieur de recherche chez nous. Sur cette question, plusieurs éléments de réponse. Le fait que ça a eu un tel impact sur nos chaînes d'approvisionnement en général, et y compris encore aujourd'hui, effectivement, alors qu'on pense être en cours de sortie de crise, ça montre plusieurs choses. D'abord, et c'est déjà un élément de réponse à la deuxième partie de ta question, on est effectivement dans un contexte de globalisation. Dans sa dimension économique, ça veut dire évidemment une très forte interdépendance des économies nationales et régionales. Mmh. Ça veut donc dire que tout ce qui peut venir perturber le fonctionnement normal de ces économies aura un impact sur leurs échanges entre elles. Et évidemment, on l'a bien vu, on l'a rapidement vu, à partir du moment où la Chine s'est rendu compte, enfin, le régime chinois s'est rendu compte de la gravité de la situation et qu'il a entamé les premiers confinements massifs en mettant à l'arrêt une partie de son économie. Mécaniquement, si je puis dire, on ne pouvait aller que vers des difficultés d'approvisionnement. Donc clairement, ce genre de crise met en question, sinon en cause, l'organisation actuelle de la globalisation dans sa dimension économique, parce qu'elle a rendu tellement interdépendantes les économies aux échelons internationaux, nationaux et régionaux, qu'on voit que face à une crise de grande ampleur, ça nous rend tous extrêmement vulnérables. Il faut se remémorer le début de la crise en Europe, c'est-à-dire qu'on avait besoin de masques et on n'en avait pas. Et non seulement on n'en avait pas, mais on n'était pas en mesure d'en produire. Donc c'est un exemple simple que tout le monde a connu et a bien identifié, mais ça a touché tout un tas d'autres produits ou productions, et ça continue d'en toucher. Sur la deuxième partie de ta question, en fait, dans notre dernière publication dans Géojournal, c'est un travail qu'on a commencé en fait dès avril 2020. On s'est mis sur la brèche avec l'équipe que je mentionnais tout à l'heure à examiner les premières données dont on disposait. On a notamment publié un premier article sur le premier confinement en Italie, puisque les données italiennes en fait, étaient les premières données fiables. Je ne dirai rien sur la fiabilité des données chinoises dont nous disposions à l'époque et même dont nous disposons aujourd'hui. Donc on a travaillé là-dessus et très rapidement, on s'est rendu compte, est née l'hypothèse que la propagation dans l'espace, les temporalités de cette, la géographie donc, et les temporalités, les chronologies de cette crise, de cette pandémie, de la propagation du virus étaient intimement liées à l'organisation actuelle de la globalisation économique. Je parle de l'organisation géographique. Et donc ça a donné lieu à un deuxième article qui vient de sortir, donc, que je mentionnais dans Géojournal, où effectivement, on voit bien que la géographie et les temporalités de cette pandémie est vraiment intimement liée à la globalisation économique.
On voit dans votre étude justement que vous revenez sur le nombre de contaminations en 2022, 550 millions d'après les derniers chiffres à travers le monde. J'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'avec un même virus, une pandémie d'une telle ampleur aurait pu avoir lieu il y a 100 ans, 200 ans, à une époque où l'industrialisation n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui?
Alors ça dépend ce qu'on entend par ampleur. Si on entend la proportion de personnes qui finalement sont contaminées, oui.
D'accord.
Faut se reporter aux travaux des historiens sur la peste, par exemple, qui a fait des dizaines de millions de morts à travers le continent eurasiatique et une partie de l'Afrique, qui a circulé pendant des siècles. Donc de ce point de vue-là, des pandémies de très grande ampleur avec des proportions de morts importantes, oui, c'est déjà arrivé. Ce qui est nouveau et qui donc du coup nous fait revenir sur le point qu'on mentionnait précédemment, ce qui est nouveau, c'est la rapidité. Le mot fulgurant, ça serait excessif, peut-être, et encore, comparé à des cas historiques, on peut presque parler de fulgurant, c'est-à-dire la rapidité de propagation à travers le monde et notamment dans les économies, donc dans les sociétés qui sont économiquement intégrées les unes aux autres et interdépendantes du fait de la globalisation économique, ça, oui, c'est d'une nouvelle ampleur. Et c'est là qu'on peut lire la pandémie de Covid-19 comme étant l'un des visages, en fait, de la globalisation actuelle. Dans la mesure où, justement, cette géographie, sa géographie, ses temporalités, et donc notamment la vitesse de propagation, ne sont compréhensibles que cet égard-là. On a fait notamment une carte en prenant des indicateurs indiquant les temporalités de propagation dans l'espace du Covid. On voit bien que les États, donc les sociétés, les économies qui sont les premières touchées et très rapidement, ce sont celles les mieux et les plus fortement intégrées à l'économie actuelle, à l'économie globalisée actuelle. Et même en Europe, les contrastes d'intégration économique à la globalisation sont lisibles très nettement dans les rythmes avec lesquels chaque pays a été confronté à la pandémie.
Et est-ce que les paralysies qu'on a connues, les confinements à répétition, etc., est-ce que ce sont aussi des éléments nouveaux ou, si on se reporte encore à quelques centaines d'années en arrière, c'était des éléments qui existaient lorsqu'il y avait une pandémie d'une telle ampleur?
Alors, bon, nous, on n'a pas travaillé là-dessus, mais on a regardé des données, des travaux qui ont été produits. Déjà, il y a une très grosse différence, c'est l'état des connaissances scientifiques. Oui. C'est-à-dire que, bien sûr, d'un côté, on s'est lamenté à raison sur le fait qu'on avait des connaissances scientifiques insuffisantes sur ce virus au début de la pandémie. Et effectivement, ce n'est pas la première fois qu'un coronavirus, qu'un syndrome SARS se propage. Hein. Faut rappeler le SARS-CoV désormais 1 du début des années 2000, qui était resté cantonné globalement à l'Asie. Donc effectivement, on a perdu 17 ans de recherche pour avoir des connaissances abouties sur ces coronavirus. Je renvoie nos auditeurs à notamment une conférence du professeur Sansonetti du Collège de France, très claire sur cette question-là. Donc ça fait quand même une grosse différence. Après, oui, on a connu effectivement historiquement des pandémies qui ont amené spontanément les gens à s'auto-confiner devant la mortalité élevée, effectivement, de certains principes infectieux.
Alors, tu reviens sur la première crise des années 2000 du SARS. C'est intéressant parce que nos auditeurs, je pense, aimeraient avoir aussi ton point de vue sur les enseignements qu'ont tiré les gouvernements maintenant, 2 ans après le début de la crise. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, des mesures prises aujourd'hui et des enseignements qu'ont pu tirer les gouvernements?
Alors, en fait, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là, dans le sens où on n'est pas encore réellement sorti de la crise. Oui. Et donc, pour répondre d'une manière honnête, il faudrait avoir 2-3 ans de recul, okay, de manière à être sorti de la crise et pouvoir examiner comment les politiques publiques en la matière, pour se préparer à faire face à ce genre de crise, pour mettre en place les outils et les moyens de faire face à ce genre de crise, comment est-ce qu'ils ont évolué? Donc ça, on ne le sait pas encore. Par contre, il faut espérer que cette fois-ci, effectivement, il va se passer quelque chose, puisque, encore une fois, il y a eu cette première alerte à peu de frais, avec la première crise du SARS, donc il y a plus de 17 ans maintenant, en fait, il y a presque 20 ans, il y aura bientôt 20 ans. Et à l'issue de cette première crise-là, les États développés dans leur globalité n'ont rien fait. Alors non seulement ils n'ont pas financé les recherches qu'il aurait fallu financer sur ces principes infectieux que sont les coronavirus et ceux qui provoquent des syndromes comme le SARS, mais ils n'ont examiné aucune des mesures et aucun des outils qu'ont mis en place certains États. Par exemple, au début de la pandémie, là, de SARS-CoV-2, j'avais publié une tribune sur le site de l'école, sur le blog de l'école, pardon, justement sur la question de l'anticipation. Et on voyait qu'un des États, et ça s'est confirmé ensuite, un des États qui a le mieux réagi, c'est Taïwan. Alors évidemment, le régime chinois de Pékin ne veut pas qu'on en parle, mais pourquoi Taïwan a mieux fait face à la crise de la Covid-19? C'est tout simplement parce qu'ils avaient fait un gros effort pour tirer des enseignements et de mémoire, ils avaient dû mettre au point un plan avec 104 mesures prêtes. En cas de nouvelle épidémie. D'accord. Et donc, ils les ont appliquées quand l'épidémie est arrivée. Je dis souvent qu'en matière de crise, il n'y a qu'une seule solution, c'est être prêt et être entraîné. Auprès de nos étudiants, je leur dis souvent, vous savez, si lorsqu'il y a un séisme au Japon très violent, il y a si peu de morts, ce n'est pas parce que les Japonais sont plus résistants physiquement. C'est parce qu'ils sont prêts et surtout ils sont entraînés. Et donc, faut espérer que cette fois-ci, avec le recul de quelques mois, quelques années, on va mettre en place les outils institutionnels, étatiques, dont ce qui a été très médiatisé, et en partie à raison d'ailleurs, les stocks nécessaires de produits, enfin, commencer par des masques par exemple. Enfin, c'est lorsqu'il y a une épidémie de quelque chose, il y a toutes les chances, mais là il faudrait poser la question à des épidémiologues, mais il y a quand même toutes les chances que porter un masque, ce soit une chose utile.
Oui, c'est clair. Juste pour revenir un tout petit peu sur l'étude que vous avez publiée avec les chercheurs de l'UM Normandie, on a pu constater que certains territoires étaient plus fragiles que d'autres quand même. Les pays dits en développement notamment ont encore parfois du mal à accéder aux vaccins. On pense notamment à l'Afrique. Quels sont les témoignages, toi, qui te remontent sur ce sujet-là?
Alors, des données et des témoignages. Si on prend le cas des pays les moins développés ou en développement, je dirais que ce n'est même pas la double peine, c'est la peine multiple par rapport à une crise comme celle-ci. Ce sont des États qui, faute d'un développement suffisant, ont évidemment une infrastructure hospitalière, une population hospitalière aussi, médicale, qui est insuffisante. Donc évidemment, quoi qu'il arrive, face à une telle pandémie, leur outil hospitalier et médical sera mis en difficulté. Okay. Donc ça, évidemment, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est que on l'a bien vu justement dans l'analyse des spatialités, des temporalités, de la géographie et des chronologies, c'est que le fait que parce qu'on est à l'ère de la globalisation économique et de cette interdépendance qu'on évoquait en début d'entretien, le fait qu'un principe infectieux puisse se propager si vite, ça a une conséquence, c'est qu'au moment, même si c'est décalé dans le temps, même si c'est retardé, au moment où les territoires les moins intégrés finissent par être touchés par la pandémie, à ce moment-là, les pays les plus développés sont toujours en crise. Donc, si on prend un exemple comme par exemple la crise il y a quelques années d'Ebola en Afrique de l'Ouest, bon, à ce moment-là, les États développés, la communauté internationale a pu intervenir pour venir à l'aide des pays d'Afrique de l'Ouest pour faire face à cette pandémie.
Et l'épidémie avait été contenue d'ailleurs.
Et elle a été contenue, elle a été maîtrisée. Bon. Mais là, c'est autre chose, c'est que face à ce genre de scénario, en fait, quand l'épidémie arrive dans les pays les moins développés, les pays les plus développés, eux, sont en crise. Ils sont en crise, ils manquent de... Ils n'ont pas encore... En l'occurrence, si on prend le cas de la Covid-19, on n'avait pas encore de vaccin, ou bien on peinait encore à avoir suffisamment de vaccins en quantité pour vacciner notre propre population. Ouais. On a tardé à avoir des masques, enfin, voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, un autre facteur aussi, là, c'est plus des témoignages que j'ai recueillis auprès de collègues en mission de recherche, notamment en Afrique. Il y a en Afrique le même phénomène que ce qu'on observe dans nos sociétés par rapport aux réticences à l'égard du vaccin, à l'égard des messages et des informations diffusées par les gouvernements, bref, tout ce qui est autour de cette méfiance installée dans une partie de la population à l'égard de la parole institutionnelle, bah, cette posture-là, elle est plus dans les pays en moins développés ou en cours de développement. Okay. Ce qui fait qu'on a même, j'ai même des témoignages à propos d'États africains qui avaient des vaccins qu'ils n'ont pas réussi à administrer.
Ouais.
Donc il y a une vraie, ça ajoute encore à la vulnérabilité des populations. Bon. Après, les travaux des épidémiologues, nous en apprendrons sans doute beaucoup avec le recul du temps et le traitement des données, parce qu'en même temps, les populations africaines n'ont pas du tout la même structure démographique que la nôtre.
Ouais, c'est ça.
Donc on sait aussi, en tout cas on fait l'hypothèse aussi, qu'elles n'ont pas été affectées de la même manière et avec les mêmes structures de risque en fonction des populations. Voilà. Maintenant, le bilan total en termes de surmortalité et puis des effets aussi des personnes malades, leur absence, les séquelles, etc., comme pour toute crise majeure, on ne le saura qu'avec peut-être 10 ou 15 ans de recul et d'examen des données et d'enquête et de recherche par la communauté scientifique.
Ok. Merci beaucoup, Ludovic, pour ton éclairage. C'était hyper intéressant. On se retrouve pour un prochain podcast sur les belles découvertes. À très bientôt.